Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Lucie a vécu il y a longtemps, très longtemps, au début de l'ère chrétienne, au IIIe siècle, dans le temps encore des persécutions. Elle habitait la Sicile, la ville de Syracuse, et il y avait pas loin de cette ville de Sicile une autre ville de Catane, où était morte Sainte Agathe, martyre. Mais il y avait tellement de miracles qui s'opéraient sur son tombeau que beaucoup, beaucoup allaient sur son tombeau et étaient guéris de leur maladie. Même les païens, ils allaient prier leur manière de prier sur le tombe de Sainte Agathe et ainsi ils étaient délivrés de leur maladie. La maman de Lucie, elle avait une maladie déjà depuis 4 ans. Elle avait tout essayé, de voir les meilleurs médecins, les spécialistes, rien à faire. Alors, un jour, sa fille, Lucie, a dit, « Eh bien, allons prier sur la tombe de Sainte Agathe à Catane, et là, peut-être que tu seras guéri. » Alors, ils sont partis. Et puis, avant d'aller sur la tombe, ils ont assisté à la messe, ils ont prié avec beaucoup de ferveur, et puis, Sainte Lucie, elle s'est endormie pendant la prière. Mais le bon Dieu avait voulu cela. Pendant son sommeil, il y a Sainte Agathe qui lui est apparue, et puis qui lui a dit, « Pourquoi me demandes-tu ce que tu peux obtenir par ta grande foi? Aussi, je veux te dire quelque chose. La ville de Catane est devenue célèbre à cause de mon martyre. Eh bien, la ville de Syracuse sera aussi honorée à cause de toi, parce que tu es chérie de Dieu. Et le vœu que tu as fait de consacrer ta virginité à Dieu lui est très agréable. » Et ensuite, elle s'est réveillée. Et puis, sa maman était toujours à côté. Elle a dit, « Tu es guérie maintenant ? Tu as été guérie, miraculeusement. » Alors, elle a dit, « Bien, écoute, je veux te demander une faveur. Ah, tu avais promis de me marier avec quelqu'un, avec un jeune homme, mais moi, je ne veux pas me marier. Je veux aimer que le bon Dieu et personne d'autre. Je ne veux pas partager mon amour avec quelqu'un d'autre qu'avec le bon Dieu. Alors, s'il te plaît, ne me parle plus de ce mariage. Laisse-moi tranquille avec cela. » Elle avait en fait promis un mariage avec un jeune homme, mais qui était païen. Et elle ne voulait vraiment ni se marier, et encore moins avec un païen. Alors, ils sont rentrés à la maison. Et puis, il a dit, « La deuxième chose que je te demande, c'est que je puisse distribuer tous mes biens aux pauvres, faire des bonnes œuvres. » Elle était très riche. C'était une famille très riche. Alors la maman lui a dit, « Bien, tu peux faire ce que tu veux avec tes biens, mais quant à mes biens, je les garde, et après ma mort, eh bien, tu pourras faire ce que tu voudras. » Alors Sainte Lucie lui a dit, « Oh, mais ça c'est moins agréable au bon Dieu, parce que de donner au bon Dieu ce que l'on n'a plus besoin, ça n'a pas une grande valeur, mais de donner au bon Dieu ce qu'on a encore besoin, ça a beaucoup plus de valeur. Il vaut mieux donner ses biens avant de mourir qu'après. » La maman a écouté et ils ont commencé à distribuer les biens et à vendre leurs propriétés, leurs héritages. Puis avec ça, ils allaient délivrer les prisonniers. Il y avait des prisonniers, des chrétiens qui avaient été emmenés en captivité. Alors avec ça, ils payaient pour la délivrance de ces prisonniers. Et puis aussi, ils allaient donner aux pauvres, aux veuves, à tous ceux qui étaient dans le besoin. Et le jeune homme, qui voulait se marier avec Sainte Lucie, s'est aperçu qu'ils étaient en train de donner tous leurs biens. Alors il est devenu furieux. Il dit, « Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce qui se passe? Après, quand je me marierai, j'aurai plus rien. » Alors la maman lui a expliqué, elle dit, « Mais non, Lucie, elle veut faire cela maintenant. Elle veut se faire un trésor. » Ah, alors il a été un peu plus tranquille. Il a dit, « Bon, peut-être qu'elle dépense l'argent, mais elle va se faire un trésor, encore peut-être plus important. » Mais ce trésor qu'elle voulait se faire, c'était le trésor dans le ciel. Toutes les bonnes œuvres qu'il faisait, c'était pour se faire un trésor dans l'éternité. Mais lui n'avait pas compris cela. Et puis il continuait de distribuer les biens jusqu'à ce qu'il n'ait presque plus rien. Alors là, il a commencé à se poser des questions. Non mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est son trésor? Il n'y a pas de trésor. Et puis il est de nouveau revenu demander ce qui se passait. Et la maman a dit, enfin, elle donne tous ses biens aux pauvres. Alors, furieux, il est allé voir le préfet de la ville, qui s'appelait Pascase, et lui a dit, « Lucie, c'est une chrétienne. elle a été trompée par cette secte des chrétiens. Alors le préfet de la ville fait venir Sainte Lucie, lui a dit, je t'ordonne d'offrir un sacrifice à nos dieux. Alors elle dit, le sacrifice saint et parfait, eh bien c'est de visiter les veuves, les orphelins, de soulager les malheureux. Et j'ai réalisé ce sacrifice, et maintenant je suis prêt à me sacrifier moi-même. Alors le préfet lui dit, nous devons obéir aux ordres de l'empereur. Alors elle répondit, vous, vous faites tout pour plaire à l'empereur, et moi, je fais tout pour plaire à Jésus. Alors le préfet furieux dit, dans un moment tu vas voir si tu auras encore les mêmes paroles quand tu seras dans les tourments, on va te faire souffrir. Tu parleras plus la même chose quand tu seras dans la torture. Jésus a promis que quand nous serons persécutés, nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous dirons, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera par votre bouche. Alors furieux, il dit, quoi? C'est le Saint-Esprit qui parle par ta bouche? Alors le Saint-Esprit est dans ton cœur? Elle répondit, oui, le Saint-Esprit est en moi, parce que Saint Paul dit, ceux qui sont purs, le Saint-Esprit habite dans leurs âmes. Alors le préfet dit, ah, eh bien je vais te faire partir le Saint-Esprit de ton âme. Je vais t'entraîner dans un lieu, on te fera faire des péchés, comme ça le Saint-Esprit quittera ton âme. Alors elle répondit, le péché, c'est la volonté qui le commet. Tu peux me faire violence, tu peux me contraindre à toutes sortes de choses, tant que ma volonté ne veut pas. Au contraire, il n'y aura pas de péché, mais des mérites. Alors furieux, il commande aux soldats qui étaient là, emmenez-la! Les soldats sont nus et commencent à la prendre, et ils n'ont pas pu la bouger. Elle était immobile, fixée comme une statue. Et le soldat qui vient, il n'arrivait pas à la prendre, un autre vient l'aider, et puis un autre, puis un autre. Ils étaient tout un tas autour, pas moyen. Alors le préfet était très surpris. Comment? Une jeune fille comme ça, et des soldats qui sont habitués à la guerre, des solides, ne sont pas capables de la bouger? Et faites un petit effort, là, qu'est-ce que vous me fabriquez? J'essayais, ils n'arrivaient pas, ils ne bougeaient pas du tout. Alors elle dit, on va aller chercher les magiciens, ils vont nous jeter des sorts, et vous verrez, ça ira bien. J'ai été chercher des magiciens qui ont répandu de l'eau, qui ont fait des incantations, et pas moyen de la bouger. Alors ils ont dit, allez me chercher des paires de bœufs. Ils ont été chercher des bœufs, ils ont attaché les pieds, attaché les mains de Sainte-Lucie, ils ont attaché plusieurs paires de bœufs. C'est avec ça qu'on tirait les charrues pour labourer les champs, c'est très fort les bœufs. Ils ont mis plusieurs. Et ils ont envoyé les bœufs qui tiraient tout ce qu'ils pouvaient. Et ils ne bougeaient pas. Pas d'un centimètre. Vous voyez comme quoi le bon Dieu. Quand le bon Dieu ne permet pas quelque chose, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas. Alors il était furieux. Il ne sait plus quoi faire. Alors il dit, allez hop, on va mettre du feu tout autour. Alors ils ont mis du feu, ils ont mis du bois autour. Ils lui ont versé de l'huile chaude dessus. Vous savez que l'huile chaude, ça brûle, hein. Et puis, ils ont mis de la poix des arbres, ça brûle aussi. On a enduit, voilà, ils ont mis le feu. Il y avait le feu qui s'est élevé, un grand feu, des grandes flammes. Et alors tout le monde était là, ils attendaient. Et quand le feu commença à diminuer, elle n'avait rien eu. Même pas une rougeur, même pas une brûlure. Rien du tout. Alors là, le préfet était furieux comme tout, encore beaucoup plus de voir qu'il n'avait pas réussi. Et qu'une jeune fille là, même pas pu la déplacer, même pas pu la brûler. Alors, un des soldats qui était là, lui a planté l'épée dans la gorge. Enfin, pas enlevé la tête, mais il a tranché la gorge. Et là, on a des veines qui saignent beaucoup. Et là, elle saignait. Alors, à ce moment-là, elle est tombée. Et puis, tout le monde est parti de par là. Et les chrétiens sont venus. Alors, elle parlait encore aux chrétiens. Elle disait, n'ayez pas peur, ayez bon courage. La persécution va bientôt prendre fin. C'était en l'an 303 qu'il y a eu ce martyr. Et en l'an 315, Constantin est venu et il aura mis fin à la période de persécution. Alors elle a encouragé les chrétiens, elle disait, tenez bien ferme, gardez votre foi. Vous serez un jour, vous n'aurez plus de persécution à subir. L'Église sera bientôt libérée. Mais si vous devez encore mourir par le martyr, réjouissez-vous de pouvoir mourir pour Dieu, de pouvoir offrir votre vie pour celui que vous aimez. Voyez, c'est un grand cadeau que vous faites au bon Dieu. N'ayez pas peur du martyr, vous irez droit au ciel. Et puis, un prêtre qui a eu le temps de venir, qui lui a donné la communion. Oh, quelle joie! Quelle joie qu'elle a eue de recevoir Jésus dans son âme. Et puis ensuite, elle est morte. Elle est entrée au ciel. Voilà la vie de Sainte Lucie, qui était une grande courageuse. Elle aurait pu avoir une vie toute différente. Elle était jeune, elle était très belle. Elle avait une grande fortune. Elle aurait pu avoir une belle famille. Elle aurait pu avoir une belle situation. Eh bien, elle a refusé tout cela. Elle a donné tous ses biens aux pauvres pour Jésus. C'est pour ça que, dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus parle de ce marchand qui recherchait la perle précieuse. Et pour cette perle, il vend tout ce qu'il a, et avec ça, il achète la perle précieuse. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait, Sainte Lucie. Mais elle, sa perle précieuse, c'était qui? C'était Jésus. Eh bien, pour obtenir cette perle précieuse d'un grand prix, qui est Jésus, elle a donné tous ses biens aux pauvres. Et elle a obtenu la perle précieuse, elle est morte martyre, et elle est entrée directement au ciel. Et maintenant, elle est au ciel. Elle vous voit. Elle vous regarde depuis le ciel. Et à vous aussi, elle vous dit, ayez bon courage, tenez ferme. Un jour, c'est là-haut que vous devez venir. Dans ces sièges préparés pour contempler Dieu, vous serez un bonheur infini, un bonheur parfait. Alors réjouissez-vous, mais tenez ferme. Suivez mon exemple, gardez la foi. Vendez tout pour Jésus. C'est la perle précieuse de grand prix qu'il faut avoir, qu'il faut rechercher. C'est la seule chose importante et essentielle qu'il faut rechercher sur la terre. Voilà. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge, elle, qui nous a donné Jésus. Le bon Dieu a choisi la Sainte Vierge pour nous donner Jésus. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge de nous aider à rechercher cette perle précieuse, cette perle de grand prix qu'est Jésus. Et un jour, eh bien, nous aurons la récompense au ciel de contempler Dieu et d'avoir cette perle précieuse qui est Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la ville de Rome, il y a une rue que l'on appelle la Via Appia. Et sur cette rue, il y avait un endroit où se trouvait une grotte. Et là se réunissaient les chrétiens, car dans cette grotte était réfugié le pape Urbain. C'était au tout début de l'Église. Les chrétiens étaient persécutés, étaient pourchassés, on les mettait à mort. C'était la période qu'on appelle la période des martyrs. Ça veut dire des témoins du Christ. Ça veut dire que ce sont ceux qui sont morts parce qu'ils ont reconnu Jésus comme étant le seul Dieu, le vrai Dieu, et non pas les autres idoles. Et tout était bien organisé, tout près de la grotte, des mendiants qui étaient sur le bord de la route et qui veillaient, qui guettaient. Alors ils restaient là, puis ils demandaient l'aumône aux gens qui passaient. Mais c'était des chrétiens qui en même temps faisaient la garde. Alors on ne se doutait pas que c'était des chrétiens qui faisaient la garde pour savoir s'il y avait des soldats qui venaient, pour avertir, se cacher s'il y avait des soldats romains qui allaient venir pour tuer le pape parce que le pape était recherché. Les Romains voulaient le mettre à mort. Et puis il y avait une grande famille à Rome qui s'appelait la famille des Cecilia. Et dans cette famille, il y avait une jeune fille qui s'appelait Cécile. Et elle avait eu l'occasion de passer souvent sur cette voie Appia. Et elle avait fait l'aumône, elle avait bon cœur. Et les mendiants avaient remarqué qu'elle avait vraiment bon cœur. Alors, ils lui ont parlé un petit peu. Ils l'ont amenée à connaître les vérités de la foi, si bien que elle est allée une fois dans la grotte. Elle a vu ce qui se passait, elle était très enthousiasmée, très contente, et elle s'est fait baptiser. Mais ses parents ne savaient pas, ses parents étaient païens, ils ne croyaient pas en Jésus. Alors souvent elle venait, elle quittait le palais, et puis elle venait à la grotte prier, elle venait écouter ce que disait le pape, ce que disaient les apôtres, les disciples, les premiers chrétiens. Voilà, elle venait écouter ce qu'on en disait sur Jésus. Elle avait un grand désir de connaître ce Jésus, elle aimait ce Jésus. Puis, bien sûr, elle grandissait. Et un jour, elle avait dit, « Oh mon Dieu, eh bien, moi, je ne veux vivre que pour vous. Je ne veux pas me marier, mais je veux vivre que pour vous. Vous aimez uniquement. Je ne veux aimer personne d'autre autant que vous. » Bien sûr, elle aimait tous les chrétiens, elle aimait sa famille, mais elle ne voulait pas aimer d'autres plus que Dieu. Et puis elle faisait beaucoup de pénitence. Elle se disait, par mes pénitences, j'arriverai à obtenir des grâces du bon Dieu pour la conversion des autres. J'aimerais tant que mes parents se convertissent, qu'ils deviennent chrétiens, qu'ils connaissent cette bonne nouvelle que d'être chrétien. Quand on est chrétien, on a le droit d'aller au ciel, on peut entrer au ciel un jour. Elle faisait de nombreuses pénitences, elle portait les cilices, c'était des cordes qu'elle portait sur elle. Elle faisait ça par amour pour Jésus. Et elle faisait de nombreux sacrifices. Tout ce qu'elle pouvait faire comme sacrifice, elle le faisait volontiers, mais pas pour être vue des autres, par amour pour le bon Dieu. Et un jour, ses parents ont dit, ben maintenant, notre fille grandit, il faut qu'on la marie. Alors, ils ont présenté plusieurs jeunes hommes à Cécile qui n'avaient pas voulu. Non, 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 elle disait chaque fois non. Puis un jour, les parents ont décidé, eh bien maintenant, on va la marier avec un certain Valérien, qui était aussi un païen. Et sa fille, elle avait une grande peine de savoir que ses parents voulaient la marier avec ce païen, qui était gentil. C'était un humble jeune homme, grande famille aussi, très gentil. Sainte Cécile avait la grâce de voir son ange gardien. Son ange gardien était tout le temps à côté d'elle, la protégeait. Elle le voyait, le bon Dieu lui avait fait cette grâce de voir son ange gardien. Alors elle s'était adressée à son ange gardien, a dit, il faudrait que vous me protégiez. Aidez-moi à me protéger. Je ne voudrais pas me marier, je voudrais rester vraiment unie avec Jésus seule. Mais elle n'a pas pu faire autrement. Elle a dû se marier avec Valérien. Alors, le soir du mariage, quand elle était seule avec Valérien, elle dit à Valérien, « Eh bien, je dois vous dire quelque chose. J'ai à côté de moi mon ange gardien qui veille sur moi. Et si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, eh bien, il te frappera et tu mourras. Tu peux me raconter des choses, mais je ne suis pas obligé de croire ce que tu me dis. Moi, je ne vois pas ton ange. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, si tu veux voir mon ange, je te donne un conseil. Ah oui? Eh bien, je voudrais voir ton ange. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu vas sur la voie à Pia. Tu verras des mendiants et tu leur diras, « Je viens de la part de Cécile. Je veux voir le vieillard. Mais promets-moi, tu ne diras ça à personne. » Alors, il est parti. Il arrive sur la voie à Pia, il voit les mendiants, puis il leur dit, voilà, je voudrais voir le vieillard, je viens de la part de Cécile. Alors ils conduisent en bas à la grotte. Il arrive dans cette grotte, très surpris, il voit là des gens qui prient, et il voit ce vieillard, le pape Urbain. Alors il explique au pape Urbain, il dit, voilà, je viens de la part de Cécile, elle m'a dit qu'elle voit son ange, eh bien moi, elle m'a dit qu'en venant ici, je pourrais aussi voir son ange. Qu'est-ce que je dois faire? Alors le vieillard lui a expliqué, lui dit, bien voilà, pourquoi Cécile voit son ange, c'est qu'elle est chrétienne. Elle prie, elle a été baptisée dans l'eau, elle a reçu la grâce. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors il lui a expliqué un peu plus approfondi. Parler de Jésus. Alors il dit, bien, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul baptême, qu'une seule religion? Oui, je crois. Alors est-ce que tu veux être baptisé? Oui, je veux être baptisé. Alors il a été baptisé, puis ensuite au baptisé on remettait une robe blanche. Les premiers temps de leur baptême, ils portaient une belle robe blanche pour montrer que leur âme a été purifiée, que leur âme était toute belle, toute blanche, que le péché originel avait été effacé. Et alors il est rentré à la maison, dans son palais, et à ce moment-là il a vu l'ange de Cécile, qui tenait deux couronnes, une couronne de rose et une couronne de lys, qui dégageait un très beau parfum. Alors l'ange leur a dit, eh bien, vous porterez chacun une couronne que les autres ne verront pas, que les chrétiens peuvent voir. Et le lendemain matin, ensuite pendant la nuit, ils ont parlé de toutes ces belles vérités, de toute cette belle religion, la religion chrétienne, et puis Valérie était enthousiasmée, ils ont prié le bon Dieu, remercié le bon Dieu de ce qu'il a pu être baptisé et qu'un jour il pourrait aller au ciel. Et le lendemain, Valérie avait un frère qui s'appelait Tiburce. Et Tibus est venu rendre visite à son frère et à sa belle-sœur, Cécile. Et quand il est entré dans la maison, il a senti une bonne odeur de rose et de lys. Mais qu'est-ce que vous avez ici? Comment ça se fait que ça sent si bon les fleurs, alors qu'on est en une saison où il n'y a pas de fleurs? C'était en hiver. Comment est-ce possible? Alors il vient expliquer, on dit, bien voilà, c'est l'ange de Cécile. L'ange de Cécile, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est l'ange de Cécile qui nous a mis une couronne que tu ne peux pas voir. Bah alors, qu'est-ce que vous me racontez là? Oui, nous portons une couronne de lys et de rose. Eh bien, moi, j'aimerais les voir. Eh bien, si tu veux les voir, il faudra que tu ailles sur la voie Appia et puis que tu ailles demander à voir le vieillard. Il était très intrigué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il lui explique un petit peu. Il est allé et il s'est fait aussi convertir et s'est fait baptiser avec un autre compagnon qui s'appelait Maxime. Et quand il est revenu, eh bien, il a pu voir les couronnes sur la tête de Valérien et de Cécile. Très vite, ils furent dénoncés. Ils étaient tout enthousiasmés de la religion catholique, de la religion chrétienne. Ils parlaient de Jésus autour d'eux, ils faisaient connaître. Ils disaient, voyez, il y a le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui est venu sur la terre, qui nous a rachetés et qui nous offre le ciel. C'est pas merveilleux, ça ? Ils étaient tout enthousiasmés. Mais il y avait des jaloux. Alors ces jaloux les ont dénoncés au préfet de la ville, qui s'appelait Almacus. Et dès que certains se faisaient passer pour chrétiens, on les tuait. Et c'est ce qui est arrivé. On a coupé la tête à Tiburce, à Valérien et à Maxime. Tout de suite. Le préfet s'est douté que Cécile était aussi chrétienne. Mais seulement, Cécile était une grande famille de Rome. Alors, on respectait ces grandes familles. Et Cécile était très aimée de tout le monde. Alors, on avait peur. On ne voulait pas la faire paraître devant le tribunal. Alors, il a envoyé des soldats à la maison de Cécile. Et ces soldats ont dit à Cécile, écoutez, vous devez rendre un culte à nos dieux, aux dieux romains. Cécile leur a dit, écoutez, moi ça je ne peux pas faire. Moi je suis chrétienne et je n'adore qu'un seul dieu. Un seul dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Alors ils ont dit, écoutez, si vous tenez ça, vous allez vous faire tuer. Vous savez que les chrétiens se font tuer. Ça ne fait rien. Moi, je préfère aller directement au ciel. En passant par le martyr, ce sera un honneur pour moi de donner ma vie pour celui que j'aime, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir Almacus et vous lui direz que je suis chrétienne et que je ne veux pas renoncer à ma religion. Alors, j'étais tout étonné, tout ému aussi, parce qu'il disait, comment une si grande famille, une si gentille personne qui va se faire tuer encore parce qu'elle est chrétienne. Alors, ils ont été très émus et ils sont allés vers le préfet et ils ont dit au préfet, écoutez, il faut attendre encore un petit peu avant de la persécuter. Et puis alors, en attendant, ils sont retournés chez Cécile, et ils ont écouté un peu ce qu'elle disait, et puis beaucoup de personnes sont venues, très intéressées, et elle les a convertis. Plus de 400 sont venus et ont été convertis, se sont fait baptiser. Ensuite, le temps a passé, Almacus a fait venir Cécile chez lui. Elle dit, écoutez maintenant, comment vous appelez ? Elle dit, je m'appelle Cécile devant les hommes, mais mon plus beau nom, c'est, je suis chrétienne, c'est mon plus beau nom. Elle avait compris que, étant chrétienne, elle était fille de Dieu. C'était son plus beau titre. Alors elle dit, écoutez, il vous faut sacrifier au Dieu romain. Elle dit, non, je ne peux pas. Je suis chrétienne, je n'adore qu'un seul Dieu, et je ne veux pas l'abandonner. Je ne veux pas le renier. Elle dit, écoutez, si vous tenez ça, vous allez vous faire tuer. Ça ne fait rien, c'est un honneur pour moi de mourir pour mon Dieu. Alors le préfet ne voulait quand même pas la tuer comme les autres chrétiens, parce que là, elle était tellement aimée et une grande famille, ça aurait suscité de la révolte parmi les Romains. Alors il a voulu faire croire que c'était un assassinat. Alors il l'a fait reconduire chez eux dans sa maison par les soldats, il l'a fait mettre dans la salle de bain, ils ont fait chauffer l'eau en grande quantité, cette eau qui dégageait de la vapeur, et il a pensé ainsi elle serait étouffée par la vapeur. Et du feu et de l'eau. Et il y a eu un miracle, elle n'a pas été étouffée, elle a été protégée. Les soldats sont revenus, lui ont dit au préfet, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, on a chauffé l'eau tout ce qu'on a pu, et elle vit toujours. On n'a rien pu faire. Alors le préfet a dit, écoutez, vous allez, et puis vous la frapperez, vous lui couperez la tête. Alors un des soldats est allé, et avec une épée, lui a donné 3 coups d'épée sur la tête, mais il n'a pas réussi à couper la tête. Il n'avait pas le droit de donner plus que 3 coups d'épée. Alors elle est restée encore 3 jours, là. Les chrétiens, quand le soldat est sorti, les chrétiens sont entrés pour aller voir, et ils voyaient qu'elle vivait. Alors elle leur parlait, des choses de Dieu, elle les encourageait à leur foi, à rester fidèles, et à donner leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur obtiendra une belle couronne dans le ciel. Et 3 jours après, le pape a pu venir, le pape Urbain a pu venir en étant déguisé, pour se faire reconnaître, et puis lui donner la bénédiction, encore avant de mourir, les derniers sacrements. Et puis, elle est morte et elle est montée au ciel. Voilà cette belle vie de Sainte Cécile, cette courageuse Sainte Cécile, qui qui a préféré mourir que de renoncer à Jésus. Elle aimait trop Jésus. Et le bon Dieu l'a récompensée. Elle est maintenant au ciel et elle vous regarde. Elle vous regarde tous depuis le ciel. Aujourd'hui, c'est sa fête. Alors, il faudra qu'on lui demande une grâce. Qu'est-ce qu'on va lui demander comme grâce? Eh bien, moi, je pense qu'on pourrait lui demander la grâce d'aimer toujours plus le bon Dieu, comme elle a aimé Jésus. Demandons-lui que nous puissions aussi aimer, qu'elle nous obtienne du bon Dieu cette grâce d'aimer le bon Dieu de tout notre cœur. Et puis aussi, d'aimer la Sainte Vierge, comme elle a aimé la Sainte Vierge. Voilà, nous demanderons ça pendant cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Peut-être que vous avez prêté attention en regardant dans votre missel pour savoir quelle fête nous avons aujourd'hui. Vous avez peut-être pu remarquer que nous avons la fête de Saint Albert le Grand. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, c'est un saint que vous devez aimer particulièrement. Il est né, oh, ça fait déjà bien bien longtemps, en 1193. Alors, vous voyez, on est en 1990, ça fait déjà bien des années en arrière, bien des siècles. Il est né dans une ville au sud de l'Allemagne, en Bavière, à Lauingen. Il était d'une grande famille, d'une famille noble, très réputée, très connue. Il a reçu une bonne éducation. Son papa lui avait proposé de devenir chevalier. À ce temps-là, c'était une belle fonction que d'être chevalier. Cependant, il hésitait. Certes, ça lui plaisait de devenir chevalier, surtout qu'on était à l'époque des croisades. Vous avez entendu parler des croisades, hein ? Eh bien, ceux qui partaient pour la croisade étaient très estimés. Ils allaient en Palestine pour délivrer le tombeau du Christ. Alors, son papa lui faisait voir toute la grandeur que d'aller délivrer le tombeau du Christ en se faisant chevalier. Alors, il était tenté de devenir chevalier, mais lui aussi, il avait un désir, c'était d'étudier, d'apprendre. Alors, pour finir, il a quand même choisi d'aller faire des études. À cette époque, tout le monde ne faisait pas des études. L'école n'était pas obligatoire. Ce n'est que plus tard que l'école est devenue obligatoire, mais à cette époque-là, pas. Il n'y avait que certains qui faisaient des études. Et surtout, les familles, les grandes familles. Alors, il est allé à l'université de Padoue, en Italie. Vous avez entendu parler de Padoue, on parle de Saint-Antoine de Padoue. Hein? Bien, il est allé dans cette ville où il y a eu Saint-Antoine. Et il est allé faire ses études-là. Et il a travaillé avec beaucoup d'ardeur. Il aimait découvrir les connaissances qui étaient possibles d'apprendre à son âge. Et aussi, il aimait beaucoup observer le grand livre du monde. Vous savez que le monde, c'est comme un grand livre où on apprend beaucoup de choses. On apprend tout ce que le bon Dieu a fait, a créé. Et il aimait beaucoup. Il regardait souvent les étoiles, le ciel. Quand le ciel était bien clair la nuit, et chaque fois il pensait, « Mon Dieu, c'est vous qui avez fait tout ça. Mais qu'est-ce que vous devez être grand pour avoir fait ces étoiles qui sont incalculables. On n'arrive pas à les compter tellement il y en a. Des milliards et des milliards. » Et aussi, il aimait beaucoup admirer la nature et toutes ces merveilles que le bon Dieu avait fait. Il découvrait le chant des oiseaux, etc. Voyez, il aimait donc tout cela. Et puis, bien sûr, il poursuivit pendant longtemps ses études et il a fallu prendre une décision. Que vais-je faire plus tard? Est-ce que je vais poursuivre des études en étudiant le droit? C'était des études assez poussées à ce moment-là pour apprendre le droit romain, le droit civil et le droit ecclésiastique, pour faire une carrière, pour avoir un métier, pour exercer ses fonctions, pour être juriste. Ou bien, est-ce que je me donne au service du bon Dieu? Qu'est-ce que je veux faire? Bien sûr, c'était tentant de prendre la ligne du droit. Être juriste, j'étais très estimé à cette époque-là, les juristes, ils avaient une belle situation. Et puis comme il était d'une famille renommée, une grande famille, ça convenait de prendre cette voie-là. Alors il était longtemps tourmenté. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le bon Dieu veut que je fasse? Souvent, il suppliait le ciel, il demandait au bon Dieu, « Donnez-moi la lumière, faites-moi comprendre, que voulez-vous que je fasse ?» Je ne sais pas quelle voie choisir. Choisissez pour moi. Indiquez-moi qu'est-ce que je dois faire. Voilà comment est-ce que l'on doit agir. Cherchez qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui fait plaisir au bon Dieu, qu'est-ce que le bon Dieu veut de nous. Voilà comment nous devons agir. Alors un jour, un peu découragé, il était entré dans une église des Dominicains. Et là, il y avait un autel dédié à la Sainte Vierge. Alors il est allé se mettre à genoux devant. Et là, il a prié. « Oh, ma bonne maman du ciel, est-ce que vous pouvez me laisser sans me faire comprendre qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à votre divin fils, à Jésus ?» Et la Sainte Vierge lui est apparue, c'est-à-dire que la Sainte Vierge a commencé à bouger, statue, et elle lui a parlé. Elle lui a dit « Mon cher fils Albert, quitte ce monde, quitte ce siècle et entre dans l'ordre des frères prêcheurs. » C'est l'ordre des Dominicains que l'on appelle l'ordre des frères prêcheurs. « Entre dans cet ordre et le bon Dieu te donnera une si grande sagesse que tu rempliras l'église de ta science. » Alors depuis là, ce fut clair. Tout heureux, il sortit de l'église. « Ah, maintenant je sais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi. » Cependant, ça n'a pas été si simple. Il est rentré à la maison, il n'habitait pas chez ses parents. Ses parents habitaient en Allemagne, mais il avait été confié à son oncle. Il entre à la maison, tout content. « Ah, maintenant je sais ce que je dois faire. Je vais entrer chez les moines, chez les Dominicains. » Son oncle était furieux. « Non, tu n'iras pas là. Mais c'est la Sainte Vierge qui me l'a dit et je veux faire ce que le bon Dieu veut. Il n'y a rien à faire, tu n'iras pas là. » Alors de nouveau, une grande épreuve. Plein de tristesse. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, mon oncle ne me permet pas de faire ce que le bon Dieu veut. Alors il souffrit encore longtemps. Il aimait beaucoup son oncle. Il le respectait. Il lui devait beaucoup. Son oncle s'était occupé de lui, de le placer, de faire ses études, le nourrir, le loger. Il devait honorer son oncle, respecter son oncle. Alors il attendit encore quelques années. Et un jour est arrivé dans cette ville de Padoue un grand prédicateur, le bienheureux Jourdain de Saxe, qui a été le successeur de Saint-Dominique comme grand provincial de l'ordre des Dominicains. Et alors, les gens ayant entendu parler que ce bienheureux Jourdain de Saxe arrivait, tout le monde s'est dit « Oh, nous allons aller l'écouter, hein. C'est un prédicateur formidable !» Alors, il y a une foule qui est allée, et puis aussi, Saint-Albert est allé. Et ce jour-là, le bienheureux Jourdain de Saxe prêcha sur les ruses du diable, comment le diable s'y prenait pour nous faire détourner de la voie de Dieu, pour nous détourner du salut de notre âme, pour nous enlever l'attention. Et celui-là lui a fait tellement de bien qu'il est sorti de l'église plein de courage, il est allé directement au monastère, il a frappé à la porte, et puis il s'est mis à genoux devant le bienheureux Jourdain de Saxe, elle lui a dit « Oh, daignez m'accepter dans votre monastère, je veux me donner au bon Dieu. » Et puis il lui a expliqué un peu les tourments qu'il a eus, tout ce qu'il lui était arrivé, que la Sainte Vierge lui avait dit cela. Alors il fut reçu et il rentra au noviciat. Le noviciat, c'est une période où ceux qui entrent se font former. Ils apprennent les règles de l'ordre, ils apprennent la spiritualité de l'ordre pour devenir des Dominicains, par exemple, quand c'était dans l'ordre de Dominicains. Et bien sûr, il fut tout de suite remarqué par sa science merveilleuse qu'il possédait. Tous ceux qui sont dans l'ordre des Dominicains, on les appelle frères. Frère un tel. Lui, on l'appelait frère Albert. Mais au bout d'un certain temps, on l'appelait plus frère Albert, on l'appelait le philosophe. Tellement il avait une science prodigieuse. Si bien que ses supérieurs, connaissant sa science, l'ont envoyé à Cologne, dans une ville d'Allemagne, pour être professeur de philosophie et de théologie. Et très vite, il se fit remarquer, tout le monde aimait l'écouter, par sa manière simple, sa modestie et son humilité qu'il avait pour enseigner ses cours. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il devint vite très réputé. Ensuite, on l'envoya aussi à Paris, enseigner la philosophie et la théologie. Et puis, là, il y avait tellement de monde qui venait l'écouter, c'est que les salles n'étaient plus assez grandes. Les salles de classe, les salles de cours étaient trop petites pour contenir tout le monde qui voulait l'écouter. Alors il a dû aller enseigner dehors, sur la place publique. D'ailleurs, une des places de Paris s'appelle Maubert, la place Maubert. Ça voulait dire que c'était la place du maître Albert. Mais comme c'était un peu long de dire la place du maître Albert, on a un peu raccourci, on a dit la place Maubert. Mais ça veut dire la place du maître Albert. Il a encore aujourd'hui gardé ce nom. Ensuite, il retourna à Cologne, et là, il y avait parmi les élèves un qui était aussi très intelligent, mais très humble, qui s'appelait Thomas, et qui deviendra plus tard le grand saint Thomas d'Aquin. Il était donc élève de ce grand saint Albert. Et puis, saint Albert l'avait remarqué, il n'était pas comme les autres, il était toujours silencieux. Il écoutait, il parlait pas. Si bien que les autres étudiants l'appelaient le bœuf muet. Alors on le ridiculisait un peu. Et un jour, saint Albert le Grand, voyant qu'on se moquait de lui, il leur a dit, « Eh bien, vous l'appelez le bœuf muet, et un jour, eh bien, sa science sera telle qu'elle sera répandue par toute la terre. » Et c'était une prédiction, et c'est ce qui est arrivé. Saint Thomas d'Aquin, avec sa somme théologique et toutes ses œuvres, c'est un monument d'enseignement. Si bien que le pape Léon XIII a dit « Chaque article de la somme de saint Thomas, c'est un miracle. » Tellement c'est merveilleusement bien expliqué avec une grande sagesse. Voilà, et donc saint Albert alla enseigner. Il alla même prêcher la croisade. La croisade a duré, vous savez, longtemps. Il y a eu plusieurs fois où les armées se sont réunies et sont parties en Palestine. Alors on a envoyé des prédicateurs, par exemple saint Bernard a été prêché en France. Et saint Albert le Grand est allé prêcher la croisade pour décider tous ces seigneurs qui ne voulaient pas tellement aller. Et ils disaient, on est bien chez nous, on est tranquille dans notre petit château, c'est confortable, qu'est-ce qu'on veut aller faire là-bas en Palestine, c'est pas très intéressant, il fait froid, et puis il y a le voyage, on est mal nourri, on est mal mené, puis on risque encore de mourir. Alors le pape avait demandé à saint Albert d'aller prêcher en Allemagne. Et il a prêché si bien que les seigneurs étaient enthousiasmés, tout le monde voulait partir à la croisade, tout le monde était décidé d'aller, même s'il faut mourir pour Jésus, eh ben on ira. Et les armées se sont levées pour partir en croisade. Et un jour, saint Albert, qui avait écrit beaucoup de traités sur toutes les sciences physiques, les sciences, toutes les sciences possibles que l'on connaissait, un professeur de sciences universelles, il avait aussi écrit beaucoup sur la Sainte Vierge, il aimait tout particulièrement la très sainte Vierge Marie. Puis un jour, il est monté en chaire, et beaucoup de monde était venu l'écouter, il était renommé, on aimait écouter. Et voilà qu'il commence à prêcher, et tout d'un coup, plus rien. Il n'a plus rien dit. Tout le monde était là très surpris. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et puis au bout d'un moment, il dit, « Eh bien, mes chers, bien chers fidèles, je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, quand j'étais au noviciat, la Sainte Vierge m'est apparue, et elle m'a dit qu'il fallait persévérer dans cette vocation, qu'il fallait continuer, que le bon Dieu répandrait une grande sagesse sur tout le monde par ma bouche, mais qu'un jour, je perdrai toute ma mémoire, et à partir de ce jour-là, donc, je devrais me préparer, car je mourrai bientôt. » Et c'était arrivé à ce moment-là. Il a perdu toute sa mémoire, toute cette connaissance, tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Et il est descendu de chair, et ensuite il s'est retiré dans un monastère, pour préparer la fin de ses jours, pour préparer sa mort. Si bien que il avait même choisi le lieu où il serait enterré. Il avait demandé d'être enterré dans l'église du monastère où il se trouvait, à tel endroit. Et tous les jours, il allait voir sa tombe, son tombeau. Et puis il se disait, eh bien voilà, c'est là que je me trouverai bientôt. C'est là que mon corps sera déposé. Il faisait cela pour se préparer à la mort, pour se dire, maintenant je vais aller rejoindre Dieu. Il ne faut pas que j'oublie quand même qu'un jour je mourrai. Et c'est ce qui est arrivé. Un jour, il rendit son âme à Dieu après avoir reçu les sacrements. Tout le monde était là autour de son lit pour prier, pour aider cette âme à parvenir au ciel, prier la Sainte Vierge de purifier cette âme avant d'entrer dans le ciel. Aimons ce grand saint Albert, vous qui êtes encore à l'étude, demandez qu'il vous obtienne du ciel une plus grande connaissance des sciences. Oui, il a beaucoup étudié aussi la grammaire. Il aimait, quand il était petit, apprendre la grammaire, les calculs, tout cela, la géographie, l'histoire. C'est très nécessaire. mais surtout aussi la science la plus importante, qui est la science de Dieu. Voyez. Il s'appliquait avec ardeur. Voyez. Il se donnait beaucoup de peine. Voyez. Voilà. Et bien, vous demanderez aujourd'hui à Saint Albert de vous obtenir aussi la grâce qu'il a eue, de vous impliquer à l'étude, mais surtout à l'étude de Dieu, de la science divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Est-ce que c'est difficile de devenir un saint ou une sainte? En fait, ce n'est pas si difficile que ça, parce que c'est le bon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des saints. Voilà. Nous ne pouvons pas devenir des saints par nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des saints. Cependant, il faut dire oui. Il faut se laisser mener par le Saint-Esprit et, si l'on fait ainsi, on deviendra des saints. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête de Saint François Caracciolo. Il est né, il y a déjà bien longtemps, en 1563. Oui, ça fait déjà des centaines d'années. Ses parents étaient très pieux, mais aussi très riches. Ils habitaient en Italie, dans le royaume de Naples. Alors les parents, bien sûr, se sont donné beaucoup de peine pour éduquer, pour former le petit. Il ne s'appelait pas François à ce moment-là. Il s'appelait Acagne. On lui avait donné ce nom-là. Ce ne sera que plus tard qu'il prendra le nom de François. Alors ils avaient formé leur petit Acagne à la vertu. Il leur avait déjà parlé du très bonheur du bon Dieu, de la Sainte Vierge. Et lui, ce qu'il a beaucoup retenu, c'est surtout la dévotion à la Sainte Vierge et à la Sainte Eucharistie. Il brûlait de désir de recevoir la communion. Alors souvent, il allait devant le tabernacle, il restait là, à genoux, en silence. Et il savait que Jésus était présent, alors il lui parlait. Il lui disait dans son cœur, « Oh, vous savez, combien j'aimerais vous recevoir. Mais voyez, je suis encore trop petit, il faut attendre encore. » À ce moment-là, les enfants ne recevaient pas la communion si tôt. Il la recevait beaucoup plus tard, certains à 10 ans, d'autres à 11 ans, d'autres à 12 ans. Mais c'est depuis Saint Pie X, depuis le début de ce siècle, que nous avons la chance de recevoir la communion à partir de 7 ans. Alors lui, il a dû attendre encore longtemps. Et il désirait beaucoup recevoir. Alors il allait souvent devant ses sacrements. Puis il disait au Jésus, bien voilà, mais vous, vous êtes tout grand, vous êtes tout puissant. Vous pouvez venir dans mon cœur. Alors venez dans mon cœur. Oh, vous savez, je vous aime. Je voudrais que vous soyez auprès de moi. Avec moi. Alors venez dans mon cœur. Voilà. Il faisait, comme on dit, des communions spirituelles. Et aussi, il avait une grande dévotion à la Sainte Vierge. Il aimait aller devant les autels, dans toutes les églises. Il y avait un autel où il y avait la statue de la Vierge. Alors il aimait aller. Et puis il restait là des longues heures, à genoux, priant la Sainte Vierge, en disant à la Sainte Vierge, eh bien voilà, conduisez-moi Jésus, faites-moi connaître Jésus. Puisque il vous a été confié, vous l'avez élevé, vous êtes occupé de lui. Alors si vous êtes sa maman, il doit vous obéir, commandez-lui que je l'aime toujours plus. Alors il était toujours pris par cela. Il aimait beaucoup aller devant sa sacrée. Il étudia avec beaucoup d'attention. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par amour pour le bon Dieu. Alors il s'appliquait dans toutes les études qu'il faisait à découvrir la science, la sagesse de Dieu, dans toute la création, voilà, dans toutes les règles. Et à l'âge de 22 ans, il est tombé gravement malade. Vous savez, il a eu la lèpre. Vous savez ce que c'est que la lèpre? C'est une maladie terrible. On n'arrive pas à guérir. Ça ronge les doigts, ça ronge le visage. Il y a la peau qui pourrit et qui tombe. Eh bien, il a eu cette maladie. Il a pensé, je suis perdu. On ne peut pas guérir. Ben, je vais mourir. Alors, ça lui a permis de réfléchir et de se dire, eh bien, à quoi bon la vie alors? À 22 ans, c'est le commencement de la vie, tout s'ouvre, tout sourit, surtout qu'il était d'une famille très riche, voilà, il aurait pu faire une belle carrière, eh bien tout est fini, tous ses espoirs sont terminés. Il se voyait tous les jours diminuer, il voyait ses doigts rongés par cette maladie, ses jambes, son visage, il devenait vilain, tout laid. Il était très beau autrement, mais il disait, à quoi ça sert la vie? Si je dois mourir maintenant, alors ça m'aura servi à quoi? Tous les plaisirs, ça m'aura servi à quoi? De m'occuper des choses inutiles, il n'y a qu'une seule chose nécessaire, c'est de se préparer pour aller au ciel. Alors un jour, il fait cette prière, et il dit au bon Dieu, « Eh bien, si vous me guérissez, vous pouvez me guérir, bien sûr, si vous me guérissez, eh bien, je me donne à vous. Je me mets à votre service. » Et il fut guéri, miraculeusement. Un beau jour, la maladie le quitta,
tout ce qui était rangé devint comme avant, et il retrouva la santé qu'il avait avant la maladie. Alors vous pensez bien qu'il se dépêcha de se mettre au service du bon Dieu. Et il fit les études, il apprit la théologie à Naples, et il devint prêtre. Aussi, il avait toujours eu un grand amour pour les pauvres. Souvent, quand il était petit, et qu'il voyait des enfants qui avaient moins qu'eux, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres à cette époque, c'était pas organisé comme aujourd'hui, alors il allait, il leur portait des fois un peu ses jouets, il voyait qu'il avait des jouets que les autres n'avaient pas, alors il les prenait, il disait à ses parents, voilà, j'aimerais offrir ça à un petit camarade, est-ce que tu me permets? Ah bien, fais-le. Alors il allait, puis il offrait ça avec un grand sourire, et l'autre était heureux de recevoir un jouet qui n'avait rien à cette époque. Vous voyez, c'était des pauvres gens. Ou alors quand il voyait des pauvres qui mendiaient et qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils étaient malades et qui ne pouvaient pas vivre, il n'y avait pas les assurances, alors il leur apportait un peu d'argent, ou il leur apportait, des fois il recevait un petit goûter, alors il leur donnait le goûter, tout heureux de pouvoir leur faire plaisir, de pouvoir les aider, les soulager. Alors quand il est devenu prêtre, il a continué comme ça, à s'occuper des pauvres. Il allait dans les hôpitaux, il allait aider, parce que les sœurs avaient beaucoup de travail, il allait aider, il allait auprès des malades, il leur parlait, il les soignait, il lavait les plaies, il allait nettoyer, il leur faisait le lit, tout ça. Il pensait à eux tous. Et un jour, il était en train de prier dans la chapelle qu'on vient lui apporter une lettre. Et c'était un de la famille des Caracciolo aussi. Dans cette lettre, c'était marqué qu'on lui avait fixé un rendez-vous et qu'on l'attendait à tel endroit. Alors il est allé, et les autres, quand ils l'ont vu venir, ils se sont dit, mais c'est pas lui quand on s'est trompé. Celui qui a apporté la lettre, il s'est trompé. C'est un autre que l'on avait demandé de venir. Et puis, parce qu'il voulait fonder un ordre, il voulait fonder une petite congrégation pour s'occuper des pauvres, pour s'occuper des prisonniers, pour s'occuper des malheureux et dans les hôpitaux. Mais ils avaient pensé à quelqu'un d'autre. Et lui, il ne savait pas ça. Alors quand il est arrivé, il s'est mis là, il les a salués avec beaucoup de respect et il les a remerciés de ce qu'il l'avait fait venir. Puis ils se sont dit, le bon Dieu a permis que l'on se soit trompé. Eh bien alors, c'est lui que l'on va garder auprès de nous pour fonder cette congrégation. Alors ils ont fondé cette congrégation pour s'occuper des pauvres, pour visiter les prisons. Alors il allait dans les prisons, voir les prisonniers. Et à ce moment-là, vous savez que les grands criminels, on les mettait à mort. Ils avaient fait trop de mal, alors on les mettait à mort. Alors on demandait aux prêtres de venir à côté des prisonniers pour les aider à faire pénitence, à regretter, à faire de bonnes confessions. Et puis comme ça, au moins, ils n'allaient pas en enfer. Et au moins, ils sauvaient leur âme. Alors ils devaient aller accompagner les prisonniers. Il allait avec beaucoup de dévotion. Il les aidait. Il les aimait comme il aimait le bon Dieu. Et il savait que le bon Dieu les avait créés par amour et qu'il les aimait quand même. Alors il les aimait comme le bon Dieu voulait qu'il les aimât. Il faisait beaucoup de bien. Tout le monde l'aimait beaucoup. Alors il a pris le nom de François lorsqu'il a fait profession dans cette nouvelle communauté. Vous voyez, il a changé de nom. D'Acagne, il a pris le nom de François parce qu'il aimait beaucoup Saint François d'Assise, qui avait beaucoup fait pour les pauvres et qui avait beaucoup aimé la vertu de pauvreté. Alors pour l'imiter et pour qu'il lui obtienne les grâces du ciel, il avait pris son nom, François. Il s'est beaucoup dévoué dans cette œuvre. Il en est devenu supérieur, car il avait beaucoup de vertus, tout le monde l'admirait. Ils ont aussi eu beaucoup de difficultés, mais il s'est toujours laissé mener par le Saint-Esprit, par la Providence. Et c'est ainsi qu'il est devenu saint, et il faisait de nombreux miracles. Des fois, il allait s'occuper des malades. Il s'occupait toujours de faire les tâches les plus vilaines. Il faisait les travaux les plus sales, les plus vilains. Il allait nettoyer les toilettes que les autres, des fois, ne voulaient pas faire. Alors, il allait, lui. Voilà. Il allait bailler les couloirs. Il allait nettoyer les murs, nettoyer les escaliers. Les autres, ils aimaient mieux faire des travaux moins sales. Mais lui, il aimait toujours ça. Toujours par amour pour le bon Dieu. Et un jour, il est tombé malade. Il avait 44 ans. Il était encore jeune. 44 ans, il est tombé malade, gravement, et puis il est tombé en agonie. Et dans son agonie, il disait, allons, allons. Et ceux qui étaient là autour, qui priaient, disaient, mais où est-ce que vous voulez aller? Mais bien, au ciel, allons au ciel. Il se réjouissait de pouvoir aller au ciel. Après avoir servi le bon Dieu, il savait que le bon Dieu accueillait dans le ciel ceux qui l'avaient servi. Alors voilà, demandons aujourd'hui à Saint François Caracciolo de devenir les serviteurs du bon Dieu. Voilà. Et si nous sommes les serviteurs du bon Dieu, eh bien, il nous accueillera
au ciel comme de bons serviteurs. Il nous dira quand nous serons jugés, venez, bon et fidèle serviteur, recevoir la récompense que je vous ai promise. Alors devenez des serviteurs du bon Dieu. Qu'est-ce qu'ils font les serviteurs du bon Dieu? Eh bien, d'abord ils sont bons, ils sont gentils. Ils servent Dieu dans la prière, ils servent Dieu dans toutes leurs œuvres, ils servent Dieu aussi dans le prochain. Ils savent que le bon Dieu est dans le cœur des autres, alors tout ce qu'ils font aux autres, ils le font au bon Dieu. La charité, la bonté qu'ils ont envers les autres, c'est celle qu'ils ont envers le bon Dieu, ils savent ça. Eh bien voilà, devenons des serviteurs du bon Dieu. Voilà, aimons-le, aimons les pauvres aussi. Oui, quand on peut leur faire du bien, faisons-leur du bien. Et puis aimons aussi beaucoup la Sainte Vierge, comme le Saint François l'a aimé de tout son cœur. Elle le conduira à Jésus. Aimons la Sainte Eucharistie, vous qui avez fait pour la plus grande part la communion. Pensez que quand vous recevez Jésus, c'est ce même Jésus que Saint François Caracciolo a aimé, qu'il désirait tant recevoir dans son âme. Voilà, et bien vous aussi, vous recevez notre Seigneur dans votre âme. Pensez à Saint François. Qu'est-ce qu'il devait dire à Jésus quand il l'avait reçu dans son cœur par la communion? Mais il devait lui ouvrir son cœur, il devait lui parler, voyez, il devait lui demander des grâces. Et ainsi, il est devenu ce saint qu'on célèbre aujourd'hui. Alors demandons à Saint François Caracciolo d'avoir un grand amour de la Sainte Vierge, un grand amour de la Sainte Eucharistie, et puis d'être de bons et fidèles serviteurs du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien aujourd'hui, je laisserai de côté ce trésor caché, qu'est la Sainte Messe, je poursuivrai ça une autre fois, pour parler un peu du saint dont on célèbre la fête aujourd'hui, Saint André. C'est un tout grand saint. Saint André, c'est le frère de Saint Pierre. Il habitait la ville de Bethsaïde en Galilée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Eh bien, ils étaient des pêcheurs. Ils allaient sur le lac de Galilée, à lancer leurs filets, prendre les poissons, et ils allaient les apporter sur les marchés. Et un jour, Saint André a entendu parler de quelqu'un qui prêchait dans le désert, qui était habillé avec des peaux de chameau, qui mangeait des sauterelles, du miel sauvage, drôle de personnage. Alors il est allé voir. Qu'est-ce que c'était comme personnage? C'était Saint Jean-Baptiste, qui venait prêcher sévèrement. Il prêchait la pénitence, mais il annonçait la venue de quelqu'un, la venue de l'envoyé de Dieu, du Messie, annoncé par les prophètes. Alors, très souvent, Saint André allait écouter Saint Jean-Baptiste, et il était devenu son disciple, mais il allait aussi poursuivre son travail de pêcheur avec Saint Pierre. Mais il allait souvent écouter Saint Jean-Baptiste. Et un jour, étant là avec des disciples, Saint Jean-Baptiste dit à ceux qui l'écoutaient, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde. » Et en même temps, il montrait quelqu'un qui passait pas très loin d'eux. Alors Saint André et Saint Jean regardent et ils suivent Jésus. Jésus passait, il revenait du désert, il avait été jeûné pendant 40 jours, et donc il passait tout près. Alors Saint André et Saint Jean se sont mis à suivre. Alors ils marchaient derrière Jésus. Ils n'osaient pas tellement l'aborder, ils ne savaient pas trop comment il fallait faire. Et au bout d'un moment, Jésus s'arrête, il se retourne, il les regarde. Oh, ils étaient pris d'émotion et Jésus leur dit, « Que cherchez-vous? Maître, où vous habitez ?» Alors Jésus leur dit, « Bien, venez et voyez. » Alors, ils étaient un peu encore, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre et ils ne connaissaient pas tellement. Mais Saint Jean leur avait annoncé que c'était cet agneau de Dieu qui venait effacer les péchés du monde. Alors ils sont allés, ils l'ont suivi. Et ils ont découvert combien Jésus était bon. Jésus les a accueillis avec plein de douceur, plein de gentillesse. Il leur a parlé. Ils sont restés le jour et toute la nuit, ils sont restés à écouter Jésus. Tellement ils étaient heureux et tellement ils étaient en admiration des belles choses que Jésus leur disait. Alors Saint André, plein de joie, il court vers Saint Pierre et dit, Pierre, on a trouvé le Messie qui a été annoncé. Oh Saint-Pierre, bah, qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, je t'assure, on a parlé avec lui. Quoi? Tu as parlé avec lui? Oui, viens, je te le montre. Un peu, pas très sûr Saint-Pierre, mais enfin, il va quand même. Il suit Saint-André et ils vont trouver Jésus. Alors, quand notre Seigneur voit Saint-Pierre, il s'appelait Simon à ce moment-là. Hein, et Jésus dit, Simon, désormais tu t'appelleras s'efface, ou Pierre. Oh, il lui change le nom, oui. Et ce n'était pas pour rien qu'il avait changé le nom, puisqu'il devenait, il devait devenir le premier pape, la pierre sur laquelle Jésus bâtissait son église. Alors, saint André allait très souvent écouter Jésus, mais il continuait d'aller pécher. Il allait beaucoup moins voir saint Jean-Baptiste, maintenant il était davantage, puisque saint Jean-Baptiste était venu pour annoncer Jésus, et donc l'essentiel, le plus important, c'était Jésus, puisque c'était lui le Messie. Il avait compris, il avait reçu la grâce, alors il allait très souvent l'écouter. Et puis un beau jour, ils étaient là en train de rentrer de la pêche, ils étaient en train d'enlever les poissons des filets, ils réparaient les filets. Vous savez que des fois, il faut réparer les filets parce que les poissons perçaient ces filets. Et Jésus passe tout près. Alors ça y est, ils sont pris d'émotion. Ils se réjouissent parce qu'ils aimaient déjà Jésus. Alors saint André était avec saint Pierre. Puis Jésus leur dit, venez, suivez-moi. Ils ont tout laissé. La barque, les filets, les poissons. Et ils sont partis, ils ont suivi Jésus. Et depuis ce jour-là, ils sont restés avec Jésus, à l'écouter, à parler avec lui. Et ils étaient pleins de bonheur. Ils ont trouvé encore un plus grand bonheur en suivant Jésus. Mais ce n'était pas toujours facile. Vous voyez, par la suite, ils auront eu des persécutions. Alors, ils ont été témoins de beaucoup de miracles. Les miracles de Cana en Galilée, le miracle du lot en changé en vin. Miracle de la multiplication des pains. À l'occasion d'une multiplication des pains, beaucoup de monde avait suivi Jésus et ils étaient dans une région déserte. Il n'y avait pas de magasin, pas de village, et les gens étaient affamés. Notre Seigneur dit, bien, il faut que nous nourrissions tous ces gens. Et saint André dit, comment on va faire? Ici, il n'y a qu'un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. On n'a jamais assez pour tout le monde. Et Jésus fit ses miracles. Il multiplia les pains pour tous ceux qui étaient là. Plus de 5000 personnes. Ils vécurent donc toute la vie publique avec Jésus, jusqu'à sa passion. Ils étaient tous réunis lorsque Jésus est monté au ciel, à l'ascension, et ensuite ils se réunirent tous dans le cénacle. Et là, ils reçurent le Saint-Esprit. Alors là, ils virent clair, tous, et comprirent tout, comme dit Jésus leur avait dit, « Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous fera tout comprendre ce que je vous ai enseigné. » Alors, ils avaient tout compris. Et chaque apôtre partait dans une région pour faire connaître aux hommes cette bonne nouvelle. Saint André y partit dans la Sitille, c'est vers le pont Euxin. Il alla en évangéliser cette région. Et il faisait de nombreux miracles qui aidaient à la conversion des païens. Et on venait en nombre pour écouter Saint André. Et il était tout heureux d'annoncer cette bonne nouvelle, la venue de Jésus pour sauver le genre humain. Et un jour, il était revenu en Sitille. Et là, le proconsul, il s'appelait Égée, avait appris que saint André était revenu, l'apôtre, et qu'il disait aux gens, vous ne devez plus adorer les idoles. À ce moment-là, on adorait les idoles, les faux dieux. Maintenant, il n'y a qu'un seul Dieu, celui que Jésus nous a révélé, et lui-même, il est Dieu. C'est lui que vous devez adorer, que vous devez prier, que vous devez honorer, parce qu'il est venu vous racheter. Alors beaucoup se firent baptiser. Et le proconsul, quand il a pris cela, il vient dans la ville. Il a dit, ça suffit, hein, maintenant il faut que j'aille faire quelque chose parce qu'il va éloigner les gens de nos dieux, il disait. Mais c'était des faux dieux. Quand saint André sut que le proconsul venait, alors il alla tout de suite le trouver. Et il lui expliqua cette belle doctrine de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre, qui a racheté les hommes. Mais lui, il ne comprenait rien. De tout ce que saint André lui disait, il ne comprenait pas. Il dit, quoi? Vous adorez quelqu'un qui est crucifié sur la croix? Non, mais vous êtes un peu fou. On n'adore pas un homme mort sur une croix. Si c'était vraiment un dieu, il ne serait pas mort sur la croix. Alors saint André, il essaie de l'expliquer qu'il a fallu qu'il meure sur la croix pour montrer de quel amour il nous aimait. Il a voulu mourir pour nous racheter. Et c'est par cette mort qu'il nous a rachetés. Et lui, il ne comprenait pas. Il dit, non. Moi, je ne crois pas, et si tu ne cesses pas tout de suite de parler de ça, je te mets à mort. Et saint André dit, moi, je n'ai pas peur de cela, je n'adore qu'un seul Dieu, et jamais je ne sacrifierai au faux Dieu. D'ailleurs, tous les jours, je sacrifie un agneau immaculé, sans tache. C'était la Sainte Messe. Chaque jour, il célébrait la Sainte Messe. Alors, le proconsul Égée est entré dans une grande colère, il l'a fait mettre en prison, en lui faisant donner des mauvais traitements par les soldats. Puis il s'est dit, peut-être qu'avec ces mauvais traitements, il va changer d'idée. Il arrêtera de parler de ce Jésus. Et beaucoup de gens de la ville étaient convertis. Alors les gens, quand ils ont su que Saint-André avait été mis en prison, Ils se sont soulevés, ils se sont révoltés et ils ont menacé de détruire le palais du proconsul. Et Saint André, quand il a su cela, il a essayé de calmer les gens. Il leur a dit non, laissez faire. Je suis trop content de pouvoir souffrir quelque chose pour Jésus. Voilà, les chrétiens étaient un peu surpris. Ils ont dit oui, c'est un honneur de pouvoir mourir pour Jésus. Parce que c'est une preuve de notre amour, la plus grande preuve qu'on peut exprimer à Dieu. Alors, ils ont été calmés. Et le lendemain, le proconsul fit le jugement de Saint André et il fut condamné. Et comme Saint André parlait beaucoup de Jésus mort sur la croix, alors l'empereur lui dit, bien, toi aussi tu vas mourir sur une croix. Et vous connaissez la croix de Saint André, c'est ce X. Hein? C'est une croix qui est différente de celle de Jésus. Il se trouvait indigne de mourir sur la même croix que celle de Jésus. Alors, on lui a donné une croix en X. Et puis, il fut attaché sur la croix. Alors, les gens étaient mécontents. Et lui, il les calmait. Il disait, non, il ne faut pas que vous vous révoltiez. Je suis tout heureux de mourir pour Jésus, pour Dieu. Et il leur parlait. Il est resté 3 jours attaché sur la croix. Et il continuait de prêcher. Et un beau jour, il fut entouré d'une grande lumière. Et il mourut. Son âme quitta son corps et pour monter au ciel. Voilà la vie de Saint André. On peut retenir ce grand amour qu'avait Saint André de la Sainte Messe. Chaque jour, il offrait la messe. Et avec quelle piété, avec quelle ferveur, il devait offrir la messe. Demandons de nous aider aussi à avoir une grande dévotion à la Sainte Messe. Et aussi, il offrait la messe, mais il avait ce grand esprit de sacrifice. Voyez, il aimait beaucoup la croix. Quand il a vu la croix qu'on lui présentait, il a s'était crié, « Ô bonne croix, si longtemps désirée, tant attendue, que tu m'es chère, toi qui as été digne de porter celui qui nous a rachetés. » Il a loué la croix. Il était heureux de la croix qu'on lui montrait, pourtant il allait mourir sur la croix. Eh bien voilà, il faut que nous demandions à Saint André de nous donner aussi l'amour de la croix, l'amour des sacrifices, l'amour des difficultés qui nous viennent chaque jour. Voyez, parce que la croix, c'est la clé du ciel. Sans la croix, on ne peut pas aller au ciel. On n'a pas la clé du ciel. Et Saint André avait bien compris cela. Mais nous lui demanderons, hein, dans cette messe, de nous obtenir l'amour de la croix. Mais des croix de tous les jours. Ah, aujourd'hui, il fait froid. Je n'ai pas envie de me lever. On est mieux au lit. Eh bien, on le fait quand même. C'est une croix. Hein, on le fait volontiers. Un sacrifice pour Jésus. Que de croix le bon Dieu nous donne chaque jour, eh bien, que nous ayons cette attitude qu'a eu Saint André face à la croix. Ô bonne croix, tant désirée. Oh, si nous pouvions désirer les croix comme Saint André, eh bien, nous ferions de grands progrès. Hein. Eh bien, demandons à Saint André, il peut nous obtenir du haut du ciel cette grâce. Demandons aussi à la Sainte Vierge, elle nous obtiendra cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Peut-être que vous êtes étonné de voir que la messe est célébrée en noir. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui est mort. Eh bien, vous savez, je vous l'avais déjà dit, et vos parents vous l'ont dit, le mois de novembre est un mois où l'Église nous rappelle qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire, tout particulièrement. Le 1er novembre, nous avons eu une belle fête, c'était la fête de tous les saints, tous ceux qui sont au ciel. L'Église nous a fait voir la joie, elle a essayé de nous faire comprendre le bonheur que les saints ont dans le ciel. Mais le 2 novembre, nous avons eu la fête de tous les fidèles défunts. Tous ceux qui sont morts, mais qui sont en purgatoire. Vous savez que le purgatoire est un lieu où les âmes vont finir d'expier leurs péchés. Les âmes qui meurent et qui n'ont pas fini d'expier leurs péchés ne peuvent pas aller voir tout de suite le ciel, ne peuvent pas aller voir tout de suite le bon Dieu dans le ciel, parce qu'elles sont encore pleines de tâches, pleines de noirceur. Alors elles ne peuvent pas aller voir Dieu. Et les âmes sont d'ailleurs toutes heureuses. Quand une âme meurt, elle quitte le corps, elle arrive devant Dieu pour être jugée. Mais quand elle voit ce que c'est que Dieu, cette majesté infinie, cette pureté, cette beauté,
elles ont honte de rester devant ses yeux, et elles sont toutes heureuses de filer en purgatoire pour aller se purifier, pour aller se faire toutes belles, afin de pouvoir aller devant Dieu, toutes purifiées. Alors elles sont contentes, d'un côté, mais d'un autre, c'est des souffrances terribles, purgatoire. Nous, on n'a jamais été, on ne se rend pas compte, mais vous savez qu'il y a des saintes à qui le bon Dieu a permis de voir ce que c'est que le purgatoire. Et Sainte Catherine de Gênes a eu beaucoup de visions sur le purgatoire. Et un jour, elle s'était écriée, après avoir eu une vision sur le purgatoire, elle était presque morte de frayeur. Alors elle s'était écriée, il faut tout faire pour ne pas aller en purgatoire. Mais nous, nous ne nous rendons pas bien compte. Un jour, Sainte Gertrude a appris que un commerçant était mort et elle s'était dit, celui-là, je me demande si vraiment il est au ciel, si vraiment il est sauvé, parce qu'il n'a pas toujours été correct dans sa vie. Alors elle s'était mise à prier pour lui dès qu'elle a appris qu'il était mort. Et longtemps après, elle eut une vision. Elle vit ce commerçant noir comme le charbon, tout déformé, qui se tordait de douleur. Alors quand elle a eu cette vision, elle s'est tout de suite mise à prier en disant, « Mon Dieu, ayez pitié de cette pauvre âme. » Et le bon Dieu lui a dit, « Eh bien, cette prière que tu viens de me faire maintenant, je l'ai déjà prise pour quand il est mort. » Le bon Dieu, pour lui, il n'y a pas de passé ni d'avenir. Alors il peut prendre les prières que l'on fait plus tard pour les âmes qui meurent, avant même que ces prières ont été faites. C'est ce qu'il a fait pour cette âme. Il a dit, eh bien j'ai exaucé ta prière, et grâce à ta prière, j'ai obtenu à cet homme, lorsqu'il était mourant, dans son agonie, des grâces spéciales pour qu'il fasse des actes de contrition. Et grâce à ça, cette âme n'est pas tombée en enfer. Alors elle était très contente, puis elle a encore adressé une autre prière, mais Seigneur, soulagez-la, délivrez-la bien vite de ce purgatoire. Et au même moment qu'elle a fait cette prière, elle a vu cette âme tomber la noirceur. Mais elle était encore, il y avait encore des taches, elle avait encore comme de la rouille sur elle. Mais cela avait donné une telle joie à cette âme, parce qu'elle était sortie du plus profond du purgatoire. Et Sainte Gertrude a compris que les âmes qui sont au plus profond du purgatoire ne reçoivent pas les prières qu'on fait pour elles, parce qu'elles n'ont pas assez fait pénitence pour les péchés qu'elles ont commis. Elles ne reçoivent pas les prières que par une grâce spéciale du bon Dieu ou certains jours de l'année. Mais le reste de l'année, elles ne reçoivent pas. Alors elles doivent rester dans ces lieux de tourment atroces. Eh bien, cette prière qu'elle a faite, Sainte Gertrude, a permis à cette âme de quitter cet endroit du purgatoire profond pour monter à un endroit plus élevé où les âmes reçoivent les prières des fidèles et ensuite elles peuvent être soulagées et même délivrées. Alors voilà. Vous penserez spécialement pendant ce mois de novembre de prier pour les âmes du purgatoire. Et vous savez, si vous faites du bien aux âmes du purgatoire, elles ne vous oublient pas. Elles ne vous oublieront pas. Il y avait un jour une dame qui faisait de la couture. Et ça fait déjà très longtemps, les gens vivaient très pauvrement. Cette dame faisait de la couture pour les gens qui faisaient faire des habits. Et un jour, elle est tombée gravement malade. Elle ne pouvait plus travailler. Alors pendant sa maladie, il n'y avait pas d'assurance. Elle a utilisé toutes les économies qu'elle avait mises de côté pour acheter des médicaments et pour se nourrir. Et au bout d'un long moment, d'une longue période de maladie, elle s'est un petit peu remise, mais elle était encore bien faible après la maladie. Alors elle s'est dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il ne me reste plus que 5 francs. C'est la seule chose. Et cette dame, elle avait l'habitude de donner tous les mois une messe pour les âmes du purgatoire. Et une messe coûtait 5 francs. Alors elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il ne me reste plus que 5 francs de mes économies. J'ai juste de quoi m'acheter un peu de pain et un peu de nourriture et n'avait plus rien à manger. Elle n'avait plus que ça. Alors elle s'est dit, pendant ma maladie, je n'ai pas pu donner des messes pour les âmes purgatoires. Elle ne pouvait pas quitter sa chambre, sa maison. Alors elle est sortie, elle est allée à l'église prier. Elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je n'ai plus de travail, je n'ai plus que ces 5 francs, et je n'ai pas donné de messe pour les âmes purgatoires. Et elle s'est aperçue qu'à la sacristie de l'église, il y avait quelques personnes, il y avait le sacristain qui sortait, et il est allé allumer les cierges. Alors elle est allée à la sacristie, et s'est dit, elle a demandé au prêtre, elle a dit, est-ce que vous allez peut-être célébrer une messe? Oui. Est-ce que vous avez une intention pour cette messe? Non. Oh, est-ce que vous ne voudriez pas dire cette messe pour les âmes du purgatoire? Oh, très volontiers. Alors elle a donné ses derniers 5 francs. Elle n'avait plus rien. Et qu'est-ce que je vais manger à midi? Ben tant pis. Les âmes du purgatoire souffrent beaucoup plus du feu et de la privation de Dieu que moi de mon dîner d'aujourd'hui. Tant pis. Eh bien, on verra bien. Je me débrouillerai autrement. Et puis, elle a assisté à la messe. Et elle est sortie après la messe de l'église. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, il faut que j'aille chercher du travail. Et puis elle était en train de regarder où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, comment m'y prendre. Et voilà qu'un jeune homme arrive auprès de cette dame. Et dit, madame, est-ce que vous cherchez du travail? Ah oui. Oh, mais quelle bonne nouvelle. Oh oui, alors. Eh bien, si vous voulez du travail, allez à telle rue, à tel numéro. Alors, oh, combien je vous remercie de tout mon cœur. À peine elle avait commencé à dire, le monsieur a disparu. Alors il est allé à telle rue, tel numéro. Cherchait, là, ah voilà, c'est cette maison. Et elle s'approche du portail, tout d'un coup elle voit sortir une dame de cette maison. Pardon madame, est-ce que vous savez si la propriétaire est là? Oh, je ne veux rien savoir, laissez-moi tranquille, moi j'en ai assez. Et elle est partie. Oh, quelle drôle de personne. Alors elle va, elle monte les escaliers, elle sonne. Et puis une dame vient à la porte, une dame âgée, aux cheveux blancs, très douce, très bonne. Bonjour madame, que désirez-vous? Madame, j'aimerais vous demander, est-ce que vous n'avez pas du travail pour moi? La dame la regarde et dit, mais donnez-vous la peine d'entrer. Elle entre dans la maison. Je ne comprends pas. Il y a une demi-heure, je n'avais pas besoin de travail. Maintenant, j'ai du travail. Je viens de renvoyer ma servante qui était mal polie, qui était méchante. Je viens de la renvoyer et alors j'ai besoin d'une autre. Mais qui vous envoie ici? Ah, oh, c'est un jeune homme que j'ai rencontré dans la rue. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Non, je ne l'ai jamais vu. Et puis, en regardant, elle voit un tableau. Et elle dit, ben voilà, c'est ce jeune homme. C'est celui-là qui m'a dit. Alors la dame le regarde. Elle commence à devenir toute pâle. Puis elle dit, mais écoutez, mais c'est pas possible. Si, je le reconnais maintenant. Bien sûr, je viens de le voir. Elle dit, mais écoutez, ça c'est mon fils. Il est mort il y a 2 ans. Alors, elle lui dit, mais expliquez-moi un peu. Alors, elle lui dit, bien voilà, ce qui lui était arrivé, que chaque mois, elle donnait une messe pour l'âme du purgatoire, qui était la plus proche de sortir pour sa délivrance. Alors, la dame, quand elle a entendu ça, elle dit, bien écoutez, j'ai tout compris. Mon fils qui était mort, il était tellement gentil, nous avons cru qu'il était déjà au ciel, c'est pour ça que nous ne prions plus tellement pour lui. Mais en fait, il était encore en purgatoire et grâce à la messe que vous avez donnée, eh bien, vous l'avez délivré du purgatoire. Alors, non seulement je vous engage pour être ma servante, mais vous ne serez pas seulement ma servante, vous serez ma fille. Et tout ce qui est à moi
sera à vous. Et voyez, comme elle a été récompensée de ce sacrifice qu'elle a fait pour une âme du purgatoire. Voyez. Eh bien, les âmes du purgatoire ne vous oublieront jamais si vous vous occupez d'elles. Alors, priez pour elles, assistez aux messes pour elles. Vous savez que pendant les messes, si vous assistez avec ferveur aux messes, il y a beaucoup d'âmes qui quittent le purgatoire pour aller au ciel. Parce qu'une messe a une grande valeur. Alors, appliquez-vous. Ça vaut la peine. Hein? Donnez-vous de la peine. Faites un sacrifice pendant le temps de la messe pour délivrer ces âmes du purgatoire. Et elles seront vous récompensées. Vous savez, quand elles seront délivrées de ce feu, de ces tourments terribles, si vous les priez après, elles vous viendront en aide. Voyez. Voilà. Alors, pensez bien tout ce mois. Et allez tous les jours sur le cimetière, jusqu'au 9. Vous savez que tous les jours, si vous allez sur le cimetière, jusqu'au 9, vous pouvez délivrer, vous pouvez gagner une indulgence plénière. Ça veut dire que si vous gagnez cette indulgence plénière et que vous la donnez à la Sainte Vierge pour une âme du purgatoire, l'âme du purgatoire sort tout de suite du purgatoire et va dans le ciel. Chaque jour, vous pouvez. Alors, voyez, si tous vous êtes là, vous allez au purgatoire, au cimetière, ça fait autant d'âmes qui sortent du purgatoire pour aller au ciel. Alors, ça vaut la peine. Voyez, si vous allez à 10... ça fait 10 âmes qui sortent du purgatoire. Si vous êtes 100 à y aller, ça fait 100 âmes du purgatoire qui sortent immédiatement. Profitez. Hein? Allez-y tous les jours jusqu'au 9 au cimetière. Puis alors vous prierez 6 Notre Père, 6 Je vous salue Marie, 6 Gloire au Père dans le cimetière. Et puis, vous direz aussi une petite prière pour le pape. Comme ça, une âme sort pour chacun qui fera ça. Voilà. Et bien, demandez à la Sainte Vierge de vous aider à avoir une dévotion aux âmes du purgatoire. Aimez-les, ces âmes du purgatoire, et elles vous aimeront beaucoup. Elles vous seront d'un grand secours tout au long de votre vie, comme ce jeune homme a venu au secours de cette dame qui a fait le sacrifice. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus eu de soucis de ce qu'elle avait besoin de manger et d'être nourrie. Elle était bien dans cette maison, prise comme la fille de la patronne. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.